vous chantiez, j'en suis fort aise, et bien dansez maintenant avec une étoile de l'Opéra de Paris, Dorothée Gilbert dans Boomerang. C'est parti. La blessure, j'y pense parce qu'elle fait toujours l'actualité. Telle image spectaculaire qui montre sur le terrain une élongation, un claquage, tel drame raconté par le menu d'une crampe, d'une entorse ou d'une luxation qui force à l'abandon, telle rengaine du joueur qui revient de blessure, de la cheville douloureuse jusqu'à la fracture. J'y pense parce qu'elle nous rappelle sans cesse la fragilité du corps humain, la blessure, même celui des champions qu'on nous vend comme des demi-dieux. La vérité, c'est que face aux limites du corps, on n'est presque rien. Tout le monde compose avec les limites de son corps. Et de la blessure, alors, je retiens moins l'abandon que l'abattement, moins la souffrance physique que le malheur qui se lit sur le visage de l'athlète, du sportif ou du danseur. Il est ce martyr ou ce témoin de ce qui nous guette, toutes et tous, à chaque mouvement. Alors, vous me direz, c'est déprimant, mais j'y vois au contraire une source d'espoir, parce que l'histoire de la blessure, vous pouvez vérifier, raconte à chaque fois comment on s'en relève, physiquement ou autrement. C'est toujours une histoire de patience et de résilience, qu'il s'agisse de l'ampoule avec laquelle je me suis réveillé ce matin, ou de Neymar qui revient de blessure au Paris Saint-Germain. C'est sans doute pour ça, en fait, que j'y pense.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui a su se relever de ses blessures. Étoile de l'Opéra de Paris depuis 12 ans, elle raconte son parcours vers le firmament dans un livre qui vient de paraître. Corps, travail, passion et pédagogie aussi. Bonjour Dorothée Gilbert.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment on se remet d'une blessure ?
Il faut de la patience, il faut accepter que le corps se blesse alors que la tête ne voudrait pas, s'arrêter, elle voudrait continuer de danser, mais le corps dit non, stop, là il faut se reposer, il y a quelque chose qu'il faut réparer.
On y pense tout le temps.
On n'y pense pas tout le temps, mais quand j'ai eu beaucoup de blessures à répétition au mollet, beaucoup de déchirures, j'avais peur. Quand je dansais, j'avais peur.
Et pourquoi la blessure est-elle un sujet tabou dans le milieu de la danse ?
Je pense pas que ça soit un sujet tabou, c'est seulement qu'on n'a pas envie d'en parler, parce que finalement, quand on a une blessure, ça veut dire qu'on danse pas. Or, quand on parle avec des danseurs, ils parlent de la danse, ils parlent des spectacles, ils parlent des répétitions, mais ils parlent pas du moment où ils sont justement blessés, ils sont chez eux et ils attendent que le corps se répare.
Ils parlent pas de douleur non plus, parce qu'on sait que la douleur, ça fait partie du quotidien du danseur.
La douleur fait partie du quotidien, mais c'est pas dans le sens un peu sadomasochiste, c'est dans le sens que on pousse notre corps le plus loin possible, on essaye de dépasser ses limites, et du coup forcément le corps souffre, c'est un petit peu douloureux, mais c'est pas la douleur parce qu'on a envie d'avoir mal, c'est pour pouvoir aller plus loin.
Dans l'introduction de votre livre qui s'appelle Étoile, Dorothée Gilbert, vous racontez une expérience traumatisante, qui est celle d'une blessure au pied qui aurait pu mettre fin à votre carrière. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ?
Je répétais un spectacle, Suite en blanc, et je répétais le pas de 5, donc il y a beaucoup de sauts, beaucoup de batteries, et je sentais une douleur au pied, je me disais, oh c'est bizarre, c'est étrange, j'avais du mal à relever, etc. Puis finalement je suis rentrée chez moi, je me suis massée un peu, j'ai mis de la glace, je me suis couchée, je me suis dit, bon ça ira mieux demain. Et le lendemain, quand j'ai posé le pied par terre, j'avais très très mal, et je me suis dit, oula, c'est vraiment pas normal. Et donc j'étais voir mon médecin du sport, et qui m'a fait passer des examens, on a découvert que j'avais une fracture de fatigue du deuxième métatarse.
Et comment vous l'avez guéri, ce pied ?
Ben en fait, il s'est pas vraiment guéri. J'ai toujours le trou dans le pied, c'est pour ça que je dis la danseuse au pied troué dans le chapitre de mon livre, parce que j'ai la fracture s'est pseudarthrosée, c'est-à-dire qu'elle s'est consolidée sur les contours, mais j'ai toujours le trou de la fracture dans l'os. L'os a pris une nouvelle forme.
Un danseur blessé, il est soutenu par l'institution, il est protégé par l'opéra ?
On est protégé dans le sens où on est en accident du travail, donc quand on est blessé, on est quand même payé, on est quand même financièrement, ça va. Ensuite, quand j'étais jeune et que je suis rentrée dans la compagnie, on n'avait pas tout cet entourage de médecins du sport, de facilité pour avoir des rendez-vous d'échographie, d'IRM. Donc je dirais que maintenant, on a une structure qui est vraiment bien mise en place, qui a été mise en place par Benjamin Millepied, qui nous permet, quand on se blesse, d'avoir tout de suite des rendez-vous. Mais avant, quand j'étais jeune, on était obligé d'aller aux quatre coins de Paris, prendre un rendez-vous avec un médecin du sport là, qui allait nous donner une rendez-vous d'échographie deux jours après. Enfin, c'était beaucoup plus long, beaucoup plus fastidieux. Maintenant, on est quand même beaucoup mieux pris en charge.
Alors, ce qui est intéressant, Dorothée Gilbert, c'est qu'après cette blessure au pied, peu de temps après, vous accédiez au rang d'étoile. Est-ce qu'elle a servi, paradoxalement, cette blessure ?
Elle m'a servi dans ma vie de femme en général. C'est-à-dire que depuis le début, j'étais comme dans une sorte de train lancé à grande vitesse vers mon but de venir dans ces étoiles depuis l'âge de 10 ans. Je travaillais pour ça, je vivais que pour ça. Et puis cette blessure m'a obligée à m'arrêter et à voir un peu le paysage, voir ce qui se passait autour. Et je me suis rendu compte que c'était important aussi.
C'est comme ça qu'on passe un niveau aussi.
On passe au niveau psychologique, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il n'y a pas que la danse, qu'il y a aussi que la vie en général est aussi tout aussi importante et que c'est important de construire des choses autour de la danse. Parce que quand la danse s'arrête, à cause de blessures ou pour autre chose, eh ben, il faut que notre vie soit riche quand même.
On va avancer un peu dans le temps. On est le 20 mars 2012, sur les planches de l'Opéra Bastille, vous dansez dans la Bayadère, sur une chorégraphie de Nourieff, inspirée de celle de Marius Petipa. Et c'est le début de l'acte 2. On vous écoute et vous nous racontez.
Alors là, je vais bientôt rentrer sur scène pour la partie la plus technique du rôle de Gamzati. Il y a énormément de sauts, énormément de puissance technique. Et donc là, on rentre avec le partenaire, on fait une première traversée avec des temps de flèche, c'est-à-dire les jambes qui montent derrière. C'est un soir spécial parce qu'on est capté pour le cinéma, donc il y a beaucoup de tension. On refait la diagonale dans l'autre sens, et puis là, sur un tout petit pas, la préparation avant le grand saut, je sens tout d'un coup une douleur fulgurante dans le mollet. Et là, dans ma tête, tout s'arrête. C'est-à-dire que je vois mon partenaire à côté de moi qui continue à danser comme si de rien n'était, mais qui avait compris que quelque chose n'allait pas, donc il continue pour meubler, pour pas s'arrêter. Moi, je suis les pieds plats par terre. Je mets les mains sur les hanches de mon tutu, posé sur le tutu, et je sors en marchant, sachant que tout le public assiste à la scène, médusé. Je peux ressentir le fait qu'ils sont un peu choqués et tristes pour moi, parce qu'ils ont compris tout de suite. Et là, je marche tout doucement vers la coulisse, qui me paraît à des kilomètres. Et quand j'arrive en coulisse, je m'effondre en larmes. Et là, je sais très bien que je me suis déchiré le mollet, parce que je connais cette sensation, ça m'est déjà arrivé. Mais je pensais qu'en scène, j'étais invincible et que rien ne pouvait m'arriver. Et là, je me rends compte que c'est pas le cas.
C'est ça. Vous imaginez un jour que la scène puisse devenir le théâtre d'un accident pareil?
Non.
Jamais, on n'y pense pas.
Mais non, parce que c'est vraiment l'endroit où on se sent libre, libre de tout. On peut interpréter des personnages, vivre, mourir, tuer des gens, on se dépasse, on va...
Mais alors soudain, Dorothée Gilbert, ça devient un espace d'appréhension, d'anxiété, la scène.
Exactement. Et c'est pour ça que ça a été très long après cette blessure. Pour moi, ça a été très long psychologiquement pour pouvoir remonter sur scène et avoir confiance. Confiance en mon corps et confiance dans ma tête.
Franchement, c'est assez passionnant de vous entendre parler de ça. J'ai l'impression que chez le danseur, ce sont aussi ses faiblesses en fait qui font sa force. Et d'ailleurs, au départ, vous le racontez dans votre livre, vous manquez de souplesse. Votre coup de pied n'est pas fantastique, votre en dehors non plus. En quoi ces manques vous ont-ils permis d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui, à votre avis ?
Je pense que ça m'a tout de suite... donné... l'envie de travailler énormément. Et c'est ce qui a fait que je suis étoile aujourd'hui, c'est-à-dire que dès le plus jeune âge, j'ai compris à 10 ans, quand j'ai présenté la première fois à 11 ans le concours de l'école de danse et que j'ai pas été prise, je me suis dit « Ah, d'accord, donc si je veux faire ça, il va falloir que je travaille. »
C'est quoi « en dehors » ?
En dehors, c'est, vous savez, c'est comme les... Quand on... Je donne cette image parce que c'est vrai que c'est drôle, les grenouilles, vous voyez ?
Oui, c'est ça, je vois, là.
Elles ont les cuisses complètement ouvertes, plates.
Oui.
L'en dehors, c'est ça, c'est-à-dire avoir, quand on fait un demi-plié, avoir les pieds tournés vers l'extérieur et les cuisses complètement plates.
Et c'est central pour un danseur, ça ?
En fait, c'est important pour la beauté de la ligne.
Et comment on le travaille, cet en dehors ?
Alors, il y a plusieurs manières. On peut assouplir un peu, quand même, en faisant du travail de barre au sol. En faisant du stretching, assouplir les hanches. Après, les hanches, évidemment, sont quand même limitées. Donc, on va compenser par le travail du bas de jambe, c'est-à-dire tout ce qu'il y a en dessous du genou jusqu'au pied, pour travailler cette partie-là en dehors, indépendamment de la hanche, pour gagner quelques degrés d'en dehors supplémentaires.
Le préserver, le conserver, c'est un combat de tous les jours, Dorothée Gilbert ?
Ah oui, c'est encore aujourd'hui, j'y pense. Hein. Ça fait partie de mes défauts.
Et de plus en plus avec l'âge ou pas ?
On est toujours autant, je dirais.
Tu oublieras les sourires, les regards. tous ces mots que l'on jure de ne jamais oublier. Tu oublieras. Accrochée au téléphone, le premier rendez-vous qu'un soir enfin je te donne, cette nuit qui a changé toute ma vie. Tu oublieras si c'était en avril, en septembre ou en juillet, s'il faisait du soleil ou si la pluie tombait. Tu oublieras.
Étoiles, Dorothée Gilbert, invitée de Boomerang ce matin, pour revenir sur un parcours épique dont le point de départ est votre désir d'intégrer une école, on l'a compris, celle de l'Opéra de Paris. Quand est-ce qu'il est né, ce désir, vous vous souvenez?
Oui, je m'en souviens très bien. C'était un soir, j'avais 10 ans et mes parents m'ont amené voir un spectacle de danse au Capitole de Toulouse, parce que je suis de Toulouse.
On l'entend et c'est délicieux.
Et ce soir-là, j'ai su après que c'était Noé Lapontois et Manuel Legris qui dansaient, donc c'est vraiment drôle. Surtout sachant que j'étais nommée avec Manuel Legris oui, dans ses étoiles plein d'années après.
Des années plus tard, oui.
Et donc, en fait, j'ai compris avec ce spectacle que les pas que je faisais le mercredi après-midi pouvaient aussi devenir un métier, qu'il y avait aussi de l'interprétation, qu'il y avait une histoire à raconter, qu'il y avait des costumes, et j'étais fascinée. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire.
Mais alors quand même, il y avait le concours d'entrée. Quel souvenir est-ce que vous en gardez? Concours que vous avez d'abord échoué, vous nous le disiez tout à l'heure. Comment ça s'est passé?
Bah, c'était vraiment les provinciaux à Paris, hein.
Ça veut dire quoi?
Non, ça veut dire que mes parents n'étaient pas du tout du milieu de la danse, donc ils y connaissaient rien. Que nous, quand on est arrivé à Paris, on s'imaginait pas que c'était si dur. On était là, on est arrivé, on s'est dit chouette, on est à Paris, on va faire du shopping. Vraiment, on se rendait pas compte. Et puis, le concours s'est passé. J'ai passé la première étape et pas la deuxième. Et du coup, je suis rentrée à Toulouse.
Qu'est-ce qui vous manquait en fin de compte, Dorothée Gilbert?
Des qualités. Hein. Il me manquait justement la souplesse, la fameuse, l'en dehors, le coup de pied. Mais quand on n'est pas pris à l'examen d'entrée de l'école de danse, on ne sait pas pourquoi. Ils ne nous le disent pas. Et mes parents, qui n'y connaissaient rien, évidemment, n'ont pas su non plus pourquoi.
Alors vous auriez pu abandonner. Sont vos parents qui vous ont dit non, on continue, on reprend?
Non, c'est
vous.
Moi.
Si jeune.
Mes parents me disaient, t'inquiète pas, si ça ne va pas. Quand j'étais à l'école de danse, quand j'ai été prise après, ils me disaient, t'inquiète pas, si t'es renvoyée, on prend nos bagages, on rentre à Toulouse. C'est pas grave, tu reprendras tes études.
Mais quand même, ça en aurait découragé plus d'un, Dorothée Gilbert, non? Surtout des enfants.
Eh ben, oui, mais je me suis rendu compte qu'avec le travail, j'arrivais à faire des progrès, j'arrivais à faire ce que j'avais envie de faire, dans le sens où justement le premier examen je l'ai raté, mais après j'ai énormément travaillé et j'ai quand même réussi à être prise à l'école de danse l'année d'après. Donc je m'étais dit avec le travail je peux arriver à tout. Et c'est ce qui m'a tenue pendant tout mon parcours.
Alors c'est intéressant parce que dans votre livre, vous notez bien que la jeune génération a du mal à concevoir que la danse demande du temps, que tout n'est pas immédiat. Comment vous l'expliquez ça? C'est l'époque?
Oui, je pense que c'est l'époque. La société va tellement vite. Maintenant, on peut avoir une information en 30 secondes en faisant Google. Tout est très rapide. Tout va vite. On peut être star en très peu de temps aussi, en passant à la télévision, dans des émissions. Donc, et je pense qu'on perd aussi l'idée qu'il peut y avoir d'autres chemins pour arriver à ce qu'on souhaite.
Après combien de temps est-ce que vous avez eu l'impression de vraiment danser ?
J'ai eu l'impression de vraiment danser quand je suis rentrée dans la compagnie et que je participais tous les soirs au spectacle.
Ça veut dire ça, en fait, danser, pour vous? C'est la régularité, c'est le collectif?
Aussi, c'est important. Et pour moi, c'était merveilleux. Je me souviens avoir dit à mes parents, mais c'est incroyable, vous vous rendez compte, je fais ce que j'aime toute la journée. En plus, on me paye pour ça.
Est-ce que c'est pas aussi une connaissance du corps, une vraie connaissance de comment est généré le mouvement, Dorothée Gilbert? Savoir danser.
Savoir danser, c'est savoir s'oublier aussi.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire savoir se mettre à disposition du personnage qu'on interprète.
Et par exemple, techniquement, un fouetté qui consiste à effectuer une série de tours sur une jambe, sur pointe, comment est généré ce mouvement? D'où il vient? Comment ça se passe?
Bah, il faut de la force dans la jambe gauche.
Alors, on ne peut pas s'oublier. On s'entend quand on dit s'oublier, évidemment.
Non, mais il y a c'est vrai, dans un spectacle, il y a des moments où justement il y a des passages qui sont très techniques, comme par exemple les fouettés, où il faut quand même rester un petit peu concentré sur certaines choses. Et il y a des moments où par exemple dans le lac des cygnes, où l'interprétation est le plus important finalement, les bras, écouter la musique. Quand je dis s'oublier, c'est être tellement dans la musique que finalement notre corps, il est presque plus vraiment palpable.
Vous allez nous montrer. Ah parce qu'on est comme ça. Vous êtes le cygne noir dans le lac des cygnes et vous nous dites ce qui se passe dans votre corps et surtout dans votre tête pendant que vous fouettez. Vous êtes prête, Dorothée Gilbert?
Je suis prête.
On y va.
Alors là, ça va être la préparation de la coda. Sachant qu'on a fait tout l'adage et la variation sur le côté gauche, et donc on a la jambe gauche déjà, on a mal. Donc on marche pour se placer au centre de la scène, et on a déjà mal dans le côté gauche, et on se dit, oulala, il va falloir que je fasse 32 relevés. Donc on part là, le plus important au départ, c'est vraiment de rester focus, d'écouter la musique, de voir si rythmiquement on est juste, de caser les doubles, pirouettes quand il faut. On en est déjà bientôt 16, voilà. Et là, c'est les 16 derniers, et on se dit, oulala, il faut vraiment tenir, donc là, on se concentre sur la jambe gauche pour pas que on ne relève pas. C'est-à-dire que la fatigue pourrait faire que notre pied ne veut plus relever. Et là, on se force à relever régulièrement. On pense vraiment plus qu'au relevé. On a évidemment la tête qui tourne.
Mais c'est ça.
On sait plus vraiment où est le devant, du derrière, des côtés. Mais le corps a tellement l'habitude d'une pirouette qu'il sait finalement dans l'espace se repérer tout seul. C'est ça qui est un peu impressionnant aussi. C'est qu'à la fin des 32 fouettés, quand on fait le double pour terminer, on n'y voit absolument rien. Quand on est en quatrième, il y a tout qui continue à tourner, même si nous, on ne tourne plus. Et la jambe gauche complètement détruite. Et on se dit, oh là là, c'est horrible. C'est un passage qui est difficile parce que...
Mais là, ça relève
justement
de la torture.
On pousse notre corps à l'extrême dans ce genre de passage, que ce soit dans les fouettés, mais spécialement dans les fouettés du cygne noir. C'est pour ça que je voulais parler de cela, parce que tout le ballet du lac des cygnes, toute la chorégraphie de Rudolf est sur la jambe gauche. Donc quand on arrive au troisième acte, on a déjà fait tout l'acte 2 sur la jambe gauche. Et on arrive dans le cygne noir, l'adage, le pas 3 avec Rothbart et le prince, c'est sur la jambe gauche. Toute la variation pratiquement est sur la jambe gauche. Et donc quand on arrive pour les fouetter, la jambe gauche, elle en peut plus, elle a envie de dire « Mais pourquoi la jambe droite ne travaille pas? Pourquoi il n'y a que moi qui travaille ?»
Ce qui me fascine, c'est quand même ce vertige à la fin. Qu'est-ce qui vous donne le vertige, vous, danseuse, Dorothée Gilbert?
Les applaudissements.
C'est vrai?
Ah bah oui, on s'est tellement donné pendant un spectacle, on se donne sans penser, si on est fatigué justement, les 32 fouetter la jambe gauche, on se dit c'est pas grave, ce qu'il faut c'est donner le maximum, c'est être au mieux, c'est pour le public. Et du coup, quand on a le retour du public, quand on entend les applaudissements, quand on entend les bravos, c'est le retour en fait de ce qu'on a donné.
Et alors pendant que les auditeurs de France Inter vous applaudissent, on va continuer à parler de vertige, de passion, de travail, mais aussi on va danser tous les deux sur Donna Summer, s'il vous plaît, c'est tellement chic. Vous êtes sur France Inter avec l'étoile Dorothée Gilbert, et même si c'est une last dance, on va danser, c'est un ordre.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
Quand même assez proche de la perfection, à pas se mentir, il n'y a rien qui dépasse. La grâce, le sourire jusqu'aux oreilles, la finesse des traits, la pureté du regard. Moi je remonte à Blier, et on peut même pas lui en vouloir parce qu'elle est sympa en plus. C'est la fille du cours de yoga, vous savez, celle qui est toujours au premier rang, qui passe son temps en équilibre sur une jambe, hyper sereine, alors que vous n'arrivez même pas à tenir debout. Vous êtes tout rouge, en hyperventilation, en hypoglycémie, vous sentez mauvais. Et là voilà, qui s'avance vers vous avec une bouteille d'eau, un sucre, une serviette éponge tiède, elle sent la prime vert, elle est irrésistible, avec son chemisier en crêpe blanche ce matin, l'étoile de l'Opéra de Paris, Dorothée Gilbert, invitée de Boomerang pour son livre Étoile, justement, un livre dans lequel par moment vous ne mâchez pas vos mots concernant la violence qui peut être celle de ce milieu. Dorothée, à l'opéra, vous avez quand même une prof qui balance des chaises quand elle n'est pas contente, une autre qui vous met à la porte, une autre qui vous dit que vous avez un gros nez. Avec le recul, est-ce qu'il y a des méthodes d'enseignement qui vous semblent un petit peu dépassées ?
Je pense que déjà la pédagogie de quand j'étais petite
a
changé.
Évolué.
Oui, ça a changé. Les jeunes, maintenant, quand on les voit arriver, on sent qu'ils n'ont pas suivi le même enseignement que nous. En plus, moi, quand j'étais à l'école de danse, les professeurs étaient déjà très âgés. ils étaient proches de l'âge de la retraite, donc ils étaient vraiment d'une autre génération et d'une autre manière.
Donc vous avez assisté à ce renouvellement.
Oui. Oui. Oui.
Dans quelle mesure est-ce que, pour traverser ces épreuves qui sont les cours, les concours, il faut apprendre à mettre ses émotions de côté, il faut apprendre à sortir de ça, en fait. À pas trop s'écouter aussi.
Je pense que c'est important de s'écouter, mais je pense qu'il faut pas s'abattre. Et il faut continuer à garder le cap, à être positif. Quoi qu'il arrive, il faut se servir de ses échecs pour pouvoir rebondir.
Ça vous est arrivé de faire comme si tout allait bien, alors qu'en fait, ça n'allait pas du tout?
Mais bien sûr, tout le temps. À l'école de danse, je disais pas à mes parents quand ça se passait mal. Parce que j'avais envie de les protéger, ou peut-être de me protéger moi, je sais pas vraiment. Mais je disais pas que j'étais renvoyée à la porte. Je disais, quand je recevais mes bulletins de notes et que ma mère voyait 2 sur 10, elle disait, mais quand même, ma petite chérie. Je disais, ah oui, mais t'inquiète pas, la meilleure, elle a 3 sur 10, hein, c'est normal, ils notent très sévèrement. Alors que c'était pas vrai. Mais je pense que c'était un moyen de protéger mes parents et de me protéger moi aussi.
Vous racontez que quand vous arrivez à l'opéra, il vous manque certaines bases, pas tellement sur le plan technique d'ailleurs, mais sur le plan du placement. Qu'est-ce que c'est le placement, Dorothée Gilbert ?
Le placement, c'est la beauté du geste. C'est la beauté du geste technique. Quand on regarde les athlètes d'il y a 100 ans et quand on les regarde maintenant, on voit comment la technique a évolué, comme le geste est beaucoup plus beau. Et ben pour la danse, c'est pareil.
C'est en ça que l'Opéra de Paris se distingue aussi des autres opéras.
Oui, je pense que la qualité des mouvements, le travail du bas de jambe, justement, c'est ce qui caractérise la danse de l'opéra.
Et c'est ce qui garantit une bonne technique aussi, non ?
Oui, mais ça garantit surtout la beauté de la technique.
Comment vous êtes parvenu à le corriger, votre corps, en fin de compte ?
En le travaillant. En le travaillant, en pensant sans arrêt à l'en dehors, en pensant sans arrêt au travail de pied, en regardant aussi les autres.
C'est vrai.
Les filles qui étaient justement en dehors, ou qui avaient un super beau travail de pied. Je me souviens, quand je suis rentrée dans la compagnie, je me mettais derrière elles et j'essayais de copier, même si je sais qu'avec mon corps et mes capacités, je pourrais jamais faire pareil qu'elles. Mais au moins, je me mettais dans la direction d'aller vers quelque chose qui pouvait ressembler.
Alors, ce qui est magnifique, c'est que vous racontez comment le corps garde la mémoire des bons placements. Quand est-ce que vous avez compris ça, d'ailleurs, que votre corps avait une mémoire, Dorothée Gilbert ?
On le ressent surtout quand on reprend des ballets qu'on a déjà dansés. C'est-à-dire quand on reprend Gisèle, qu'on a fait 2 ou 3 ans avant, et que presque le corps danse tout seul. C'est-à-dire que la tête ne se souvient pas de la chorégraphie, mais quand on est dans le studio de danse et qu'on met la musique, le corps fait les mouvements. Non, mais c'est fou, il y a vraiment une mémoire du corps et musculaire.
Mais comment on fait pour mémoriser une chorégraphie, en fait ? C'est une vraie question.
C'est lié à la musique. Pour moi, c'est vraiment, vraiment lié à la musique. C'est-à-dire qu'une chorégraphie, justement, quand j'essaie de la réviser la veille dans ma tête, Gisèle, pour prendre comme exemple, je me souviens pas des pas, je me souviens de certaines bribes, de certaines petites choses, mais pas de tout exactement. Et quand le lendemain je suis dans le studio et que la musique commence, il y a tout qui revient dans le bon ordre.
Et quand des années plus tard, Dorothée Gilbert, vous reprenez une chorégraphie, vous vous en souvenez encore ?
Avec la musique, oui.
J'aimerais, pour terminer cette émission, alors vous entendre danser une dernière fois une variation du ballet Raymonda d'Alexandre Glazounov, chorégraphié par Rudolf Nureyev, que vous êtes en train de répéter en ce moment, je crois, mais que vous avez déjà joué. C'est une avant-première à la radio, quand même. La variation numéro 3 de l'acte 1. Vous êtes prête ?
Oui.
C'est à vous.
Alors, c'est une variation qui se passe dans un rêve. Raymonda est en train de rêver, donc elle s'imagine. Elle n'est pas vraiment réelle. Et quand on danse cette variation, ce qu'il y a d'important, c'est d'écouter le violon. Parce que le violon nous dicte le mouvement lié des arabesques et des ports de bras qui ne se terminent jamais. Tous les petits moments de silence sont importants pour permettre la suspension, comme si le temps s'arrêtait. Et puis on repart. Et dans cette chorégraphie, c'est drôle parce que hier, on répétait et la violoncelliste est venue répéter avec nous et j'ai pu répéter donc cette variation avec la violoncelliste et ça a complètement changé ma manière de danser la variation. Entre le piano et le violon, ça n'a plus du tout la même sonorité et les mouvements n'étaient plus du tout les mêmes. Ils étaient beaucoup plus liés, beaucoup plus amples, beaucoup plus spirituels, j'ai envie de dire. Et donc, oui, c'est une variation qui un peu sur le contrôle, où justement, il faut absolument pas qu'on voit les descentes de pointe saccadées ou qu'on voit la difficulté technique. Il faut que tout soit fluide et sans contrainte. Et je trouve que quand on écoute le violon, on entend ça.
On y est, là, Dorothée Gilbert. Merci tellement d'être venue faire un tour dans cette émission. Merci pour le spectacle de ce matin. Quelle beauté, par la voix, par le son, par l'émotion. Je rappelle que Étoile est publié au Cherche Midi Éditeur. Tout de suite, les médias, juste après ça. Armée, Laura Cahen, il est 9h40 sur France Inter et tout de suite c'est l'heure des médias, l'instant M avec Eva Rock. Bonjour Eva.
Bonjour Augustin et rendez-vous demain évidemment.